Merci à vous, Emmanuel. M'entendez-vous ?
Très bien.
Et, sans le dire ou en le disant, je commence en tant que vieux latiniste, un peu helléniste aussi, par une captatio benevolentiae. J'en appelle donc à votre bienveillance, et plus encore qu'à votre bienveillance, à votre indulgence. Ça, on le fait, c'est agaçant de l'entendre dire, mais enfin, c'est bien utile pour moi. Je vous avoue que ce n'est pas de l'ordre de la coquetterie, je pense, ce que je vous dis maintenant. Ce sujet-là m'impressionne et je ne l'ai pas bien préparé. Vous devrez subir, j'espère sans trop de désagréments, mais je n'en sais rien, vous devrez subir plus une promenade à travers des paysages que j'aime qu'un enseignement caractérisé. Emmanuel, gentiment, me présentait comme quelqu'un à entendre cette présentation, qui est juste, c'est vrai, pour ce qui concerne, en tout cas, le cursus. On pourrait croire que je suis savant. Ce n'est pas le cas. Je connais beaucoup de choses, au pluriel. Suis-je savant, selon la conception que je me fais de la science en tout cas, je suis quasiment sûr que non. Pardonnez-moi de vous parler peut-être d'une manière trop personnelle. Si c'est le cas, c'est l'occasion vraiment de m'exprimer, ou en tout cas de garder pour vous la bienveillance du cœur. Je n'ai jamais été un savant. Si j'avais à me définir, et je parle donc un peu trop de moi peut-être, mais vous le sentirez au cours de cette petite causerie, je suis incapable, peut-être par paresse, en partie sûrement, mais aussi par tempérament, foncièrement, incapable de me dégager vraiment des choses que je connais un peu, puisqu'elles sont toutes de l'ordre de l'expérimentation, et en particulier ce qui m'est le plus cher. Outre l'effort, qui n'est pas toujours un effort d'ailleurs, mais le plus souvent qui en est un cependant, d'aimer les autres, ce que Pascal indiquerait comme relevant de l'ordre de la charité, c'est-à-dire l'amour de Dieu, si l'on y croit, mais à travers les personnes que l'on rencontre. Je sens les choses. Et ce qui m'a toujours modelé depuis mon enfance la plus ancienne. Mon enfance est ancienne, comme vous avez remarqué, mais je parle des tout premiers temps de mon enfance, c'est ce qui relève de la poésie. Et cela ne m'a jamais quitté. Ou je ne l'ai jamais quitté, mais aurais-je voulu quitter cet univers de la poésie que je n'aurais pas pu. Et d'ailleurs, je n'ai pas cherché. J'ai rencontré dans ma vie, qui est longue, j'ai rencontré beaucoup de difficultés, forcément. Mais plus encore, ça fait la troisième fois peut-être que j'emploie ce mot, beaucoup de bienveillance. En un temps aussi dur que le nôtre, et que moi-même je trouve très dur, et dont je dis quelquefois, même souvent, avec une vigueur excessive, qu'il est trop dur je manque à l'honnêteté qui consisterait à reconnaître tous les bienfaits que j'ai reçus dans ma vie de cette bienveillance dont je parle. Parce que avoir affaire à quelqu'un de pas idiot, je ne présente pas comme un imbécile, à supposer que je sache ce qu'est un imbécile, et à supposer même que je sache ce qu'est un homme intelligent, je ne sais pas non plus, parce qu'au fond je ne sais pratiquement rien. Ce n'est pas de la coquetterie, c'est vraiment ce que je pense, et ce que je ressens. Du coup j'ai oublié le début de ma phrase, mais vous la compléterez éventuellement si elle vous paraissait le mériter. Mais, bon, je ne sais plus ce que je racontais, mais tout ça pour vous dire que ce qui compte pour moi, ce qui a toujours compté, c'est ce qui relève du ressentiment, au sens ancien du mot. Pas le ressenti, j'ai horreur de cette expression qu'on entend partout maintenant, le ressenti, son ressenti. Il fait 4 degrés. Ressenti, moins 12. C'est vraiment stupide, je trouve. Mais le ressentiment, c'est autre chose. C'est apparenté, bien sûr. C'est ce qui relève de la manière dont les choses et soi-même, dont les gens et soi-même, nous rencontrons. Et nous enrichissons mutuellement. Alors, ce que j'ai appris vraiment le mieux, le plus profondément, j'ose le dire, et que j'ai appris par cœur, parce que j'avais, dans des temps anciens, une excellente mémoire, dont il me reste quelques vestiges. Mais vraiment, cela m'a aidé beaucoup. J'ai appris à respirer, plus qu'à connaître, à supposer que ce soit différent. Connaître et respirer. J'ai appris à respirer la beauté. En particulier, ça c'est mon univers natal, et probablement un univers natal correspondant à des domaines plus anciens encore, et dont je ne saurai jamais rien, sinon dans l'autre monde, à supposer que j'y rentre un jour. J'ai toujours senti et vécu la beauté de la mer. La beauté de la mer telle que on la ressent le plus naturellement dans la contrée de ma naissance, c'est-à-dire la ville de Vannes et le golfe du Morbihan. C'est-à-dire une mer. J'aime beaucoup l'océan. Beaucoup. Mais j'aime peut-être encore davantage, pas davantage, autrement, plus intimement, la mer de chez nous, de chez moi, où la terre et la mer se rejoignent. Je ne sais pas si vous accordez quelque importance aux signes zodiacaux, je n'en sais rien, je ne sais d'ailleurs pas quelle importance il faut leur accorder, mais voyant que je suis né sous le signe du Cancer, et plus particulièrement au moment précis où s'achève le solstice d'été, le 24 juin, qui paraît-il est mais je ne le savais pas au début, est un signe marqué par le goût de l'eau, comme l'amour de l'eau, comme je crois le scorpion, et comme le signe du poisson. Mais les gens qui sont sous le signe du Cancer aiment l'eau douce, surtout, c'est l'eau de mer aussi, dans son rapport avec la terre. Fluidité, les paysages s'entremêlent. Ce fut mon bonheur, toujours. Un bonheur solitaire, d'enfance, mais un vrai bonheur, qui se teintait constamment de mélancolie, de la perception d'un monde qui était là, mais qui m'échappait aussi. Et ce sentiment, si j'ose dire, de m'approprier un manque, de m'approprier, pas de posséder, de considérer comme m'étant propre ce monde qui manque, mais qui était là. Peut-être cette impression, cette certitude même, n'est-elle pas pour rien dans l'intérêt que je porte et que j'ai toujours porté à l'art et dans l'art à la poésie. Vous voyez, je vous disais que je m'inviterais à une promenade, vous voyez qu'elle n'est pas très rationnelle. J'aime beaucoup Descartes. Mais ma passion ne va pas forcément très loin en ce qui le concerne, parce que je n'ai pas l'esprit suffisamment, capable d'abstraction pour percevoir toute la grandeur, m'approprier la grandeur de pensée d'un Descartes, non, je n'en suis pas capable. En revanche, ressentir ce que l'on peut discerner dans un regard, dans des sons, rien. Je suis en train de devenir sourd complètement. C'est dur de toute façon. Mais surtout, si vous avez fait la musique au fond du cœur, je vous embête pas trop. Pour moi, je vous disais, tout est poésie. Parce que tout est musique. Mais vous me direz peut-être, mais vous avez passé votre vie à vous occuper d'art visuel. C'est vrai, une grande partie de ma vie. Mais la musique ne m'a jamais quitté. Ou je n'ai jamais quitté la musique. J'en suis incapable. À l'heure actuelle, la musique me quitte, puisque je deviens sourd. Vous savez, j'espère que ce n'est pas votre cas. Mais c'est très dur. Je ne dis pas ça pour vous apitoyer, mais pour que vous sachiez qu'il est souhaitable. Vous êtes tous jeunes, et sachez que la jeunesse, sans vouloir du tout la flatter, impressionne les personnes âgées. Parce que des barrières s'installent peu à peu. Ici, je n'ai pas l'impression qu'il y ait tant de barrières entre nous, mais peut-être y en a-t-il que je ne discerne pas. Mais vieillesse signifie solitude. Et ça, c'est inséparable aussi de la poésie, l'impression de la solitude. Il y a des vers sublimes, entre autres en anglaise, parce que c'est une langue qui nous envahit de manière la plus effroyable, mais c'est une des plus belles langues qui soit. Quand elle est bien parlée, d'une grande musicalité. Et il y a des poèmes sur la solitude, en anglais, en particulier dans les temps anciens, du XVIe, XVIIe siècle, qui sont d'une beauté une beauté vraiment bouleversante. Du reste, vous l'aurez remarqué, nous ne sommes... Aucun d'entre nous n'est capable, n'est apte, ce n'est peut-être même pas désirable, apte à voir les choses d'une manière complètement objective. Alors même, je le dis un peu étant jugé parti, n'étant pas capable d'objectivité, le sachant. Mais je crois que beaucoup de personnes qui revendiquent l'objectivité. Pas qu'ils se revendiquent de l'objectivité, de grâce. Si jamais vous employez cette expression, se revendiquer de quoi que ce soit, oubliez-la tout de suite, jetez-la au panier et à la place, dites se réclame. Là, c'est du français. On se réclame de quelque chose et on revendique quelque chose. Mais on ne se revendique pas de quoi que ce soit, n'en déplaise à ces messieurs et à ces dames de la télévision. Et de partout. on se réclame des choses. Bref, voyons que je ne vous oublie, mais il y a un fil qui vient, je ne sais pas si c'est des dieux ou de la bienveillance lointaine. Je ne sais plus trop ce que je racontais, vous voyez. On dit que les chemins bretons sont des fantaisistes qui vont de travers au lieu d'aller droit. À cet égard, je pense que je suis vraiment breton. Alors, la musique. La musique. La manière de la respirer, de la vivre, de telle sorte que Mozart ne puisse pas être pour vous un étranger, que vous ne puissiez pas aborder, même si c'est très important, les études musicales, bien sûr, qui exigent une certaine distance par rapport à l'objet de l'étude, bien sûr. Mais il faut y entrer. Je me souviens de quelqu'un qui un jour me disait de son fils, qui n'aimait pas Mozart, mais était musicien, paraît-il, il s'y met. Un musicien qui se met à Mozart, à aimer Mozart. Je doutais, mais il s'occupait de musique électronique surtout. Mais je n'ai rien contre, mais je n'y vois pas l'essence de la musique. À tort, sans doute. Bref, je respire les choses plus que je ne les connais. Pour moi, l'art est essentiel à travers les os, surtout, et à travers la musique, y compris les œuvres visuelles que je regarde. J'ai plutôt envie de dire que je les écoute. Et je crois que une des choses qui manque aujourd'hui le plus, c'est l'écoute, c'est d'écouter. Vous l'aurez sûrement remarqué, le plus souvent, les personnes qui parlent crient plus qu'elles ne parlent, et les sourds, à moins d'être totalement sourds, ce qui, j'espère, ne m'arrivera jamais, entendent quelques sons. Ils n'entendent pas tous les sons, mais les sons qu'ils entendent prennent un caractère de violence très grand. Eh bien, les gens ne s'écoutent pas le plus souvent. Ils parlent en même temps. Ils crient en même temps. Et ça, c'est une chose terrible. Il faut apprendre, je crois, à ménager les silences, à écouter. D'ailleurs, je crois que certains parmi vous, peut-être tous, je ne sais pas, sont philosophes. Vous savez bien que écouter, cela relève de l'esprit. Cela relève de la... Cela relève du silence. Écouter les paroles, c'est bien, mais écouter ce qui est silence à travers la parole, c'est cela, surtout, la musique. Et dans l'art, que j'ai beaucoup pratiqué, et que je pratique toujours, je vais beaucoup au Louvre encore, et puis ailleurs, dans l'art, j'ai écouté beaucoup. Là, je parle parce que c'est mon rôle ce soir, mais... Et puis, je suis content parce que je suis dans votre gentillesse. Mais... J'ai beaucoup écouté, vraiment. Et j'ai écouté les œuvres d'art. Le silence des œuvres d'art. Leur musique. Leur mouvement. Au sens musical du mot, tenez. Je pense tout à coup à un des tableaux qui m'enchante le plus au Louvre, que vous connaissez sûrement, c'est un des chefs-d'œuvre du Louvre, L'enfant au toton de Chardin, le connaissez-vous? Eh bien, éventuellement, si cela paraît à certains d'entre vous agréable, nous pourrions aller le voir ensemble. L'enfant au toton. C'est un tableau qui est grand comme ça, qui date de 1737. Chardin, ça vous dit quelque chose, Chardin, tout de même. Chardin, le peintre des natures mortes. Dieu sait que j'aime la langue française, mais là, l'expression française n'est pas juste. Nature morte, still life, c'est beaucoup plus juste. Pour parler de vie tranquille, comme font les Anglais. Alors, c'est pour pas continuer à parler français, tout de même. C'est une nature morte qui représente un enfant. Un enfant au visage lumineux, un visage de lumière, vraiment. Attentif. Attentif. Vous connaissez tout de même un peu Chardin. Vous voyez cette peinture extrêmement raffinée. C'est un pastelliste, c'est le plus grand pastelliste français, peut-être le plus grand au monde, enfin l'un des plus grands, en tout cas. Et donc c'est un art subtil et très fragile. Rien n'est plus fragile que le pastel. Donc, cet enfant autochtone, on connaît son identité, on sait qui il était. Il y a son frère qui, lui, tient le violon. Il est juste à côté, c'est un autre tableau. Magnifique aussi, mais peut-être moins, enfin, qui me touche moins, mais ça ne change rien à sa valeur. Cet enfant autochtone, il regarde donc sur la table, lumineuse, lui-même étant très lumineux, innocent. Il observe le toton, on voit bien son index et son pouce qui sont en train de se séparer, mais ils étaient unis il y a un instant encore, au moment où il a commencé à faire tourner le toton. Il regarde, et le toton tourne. Évidemment, le tableau est immobile, mais il tourne. Et il viendra un moment où, à force d'avoir tourné, tombera. Mais là, il est en suspens. Et ce, depuis 1737, date de cette peinture. Vous voyez, vous devinez quelque chose du mystère de l'art à travers cela. Un enfant toujours aussi lumineux, aussi sérieux aussi, mais d'un sérieux émerveillé, regarde le toton qui tourne sans bouger, mais qui tourne, qui n'est pas encore tombé, et qui ne tombera jamais, en tout cas, qui ne tombera pas tant que ce tableau existera. Voilà, n'est-ce pas de la musique? N'est-ce pas du mouvement dans l'immobilité la plus parfaite? Et quand vous voyez cet enfant, il est vraiment notre contemporain. Il est votre contemporain, ou vous êtes le sien. Parce que lui ne vous regarde pas. Il est absorbé par l'émerveillement que lui procure le toton. Vous voyez, pour moi, avant même d'aborder les sujets, et c'est très important les sujets en art, avant même de les aborder, d'aborder un sujet, par exemple, une crucifixion, ou ce que j'apprécie le plus, c'est l'âme de l'art qui est bien sûr associée de près à la signification que le peintre a voulu lui donner, mais qui est autonome, je pense, en quelque sorte, par rapport à cette signification. Sauf peut-être dans certains arts magnifiques, tels que certains arts de l'icône, par exemple, où il y a une forme d'immobilité spirituelle sublime, mais d'un autre ordre que celle dont je parle. Cette immobilité mobile, cette ce mouvement dont on voit bien qu'il existe, mais qui reste ce qu'il est. Depuis maintenant, calculé, 1737. Parce que ça fait par rapport à... Ah ben, ça fait presque 300 ans. Ça fera 300 ans dans 22 ans. Non, c'est ce que je dis. Si. Non, dans 12 ans. 2019, c'est ça? Bon. Mais tout est comme ça, dans les chefs-d'œuvre. Tout est comme ça. Je vous ai apporté une chose, c'est très différente. Chose que j'ai... c'est un catalogue, un très beau catalogue, que j'ai reçu il y a quelques jours, d'une grande amie, qui est la conservatrice du musée du Guéron, c'est-à-dire du musée d'art sacré, à Paray-le-Monial. C'est un très, très bel ouvrage. Je voulais apporter, parce que je me disais que j'allais peut-être vous parler d'art contemporain. C'est de l'art contemporain. La contemporanéité commençant très tôt. Mais les dernières œuvres, les plus récentes, sont vraiment d'aujourd'hui. C'est un très beau musée qui exprime très riche d'œuvres d'une grande beauté, mais très riche aussi de la, comment dirais-je, de l'enchâssement des marques d'amour qui lui ont été portées depuis, avant même qu'il existe, puisqu'il a été créé par un monsieur qui s'appelait le baron de Sarachaga et qui travaillait avec un jésuite qui s'appelait le père Drevon à la fin du 19e, au début du 20e siècle. Et il a construit ce musée, et il a fallu, pour l'art sacré, mais la conservatrice actuelle, elle s'appelle Dominique Dindrel, a voulu étendre à différentes religions ce musée qui est à l'origine, et qui ça se sent encore très bien aujourd'hui, dévolu au cœur du Christ. C'était vraiment la passion du baron de Sarachaga. Maintenant, il est ouvert à d'autres artistes, mais qui ont tous en commun non seulement le respect de l'histoire de ce musée, de son sens autour du cœur du Christ, de l'organe physique, mais surtout l'organe spirituel du corps de Christ, mais qui déploie cette perception selon des cheminements fort différents les uns des autres, puisque il y a là des artistes juifs, des artistes musulmans, je ne sais pas s'il y en a, puis d'autres qui n'ont pas une adhésion de foi particulière. Voyez-vous, rien n'est plus émouvant pour moi que la rencontre pleine de respect et d'amour, je répète le mot, pardon, de personnes qui pensent des choses éventuellement très différentes, touchant le contenu de leurs adhésions respectives, j'allais dire de leur foi ou de leurs incertitudes respectives, mais qui s'unissent dans j'allais dire la certitude, disons plutôt dans, oui, je ne trouve pas d'autre mot, l'évidence mystérieuse qu'il y a une rencontre possible entre toutes ces œuvres issues de sources si différentes. Une des œuvres qui se trouve dans ce musée est une œuvre, j'oublie le nom de l'artiste, mais je vais le retrouver parce qu'il est là. Thomas Glemp, dans un club d'origine juive polonaise, portait un autre nom. Il est mort, il a échappé à Auschwitz et au reste, où sa famille a péri. Et il y a des œuvres de lui qui sont là, très pures. Vous pourrez regarder tout à l'heure si ça vous intéresse. Ce sont des fils de fer barbelés. Un peu de lien, un fil barbelé, là. Ça a quelque chose de rude. Quelque chose de rude. Mais ça n'a rien d'horrifiant. Parce que c'est fait avec, je le répète encore une fois, peut-être trop, beaucoup d'amour. Ces œuvres-là, la principale, en particulier, de lui, de Thomas Gleb, est une transposition d'un Carmel. Un Carmel, je ne sais plus la ville, mais le Bourgogne en tout cas, je crois, s'est retrouvé. Un Carmel qui lui avait, les religieuses du Carmel, qui lui avaient commandé, à lui, artiste juif, cette œuvre, parce qu'elles avaient senti, les carmélites, qui vivent cloîtrés, comme vous savez, elles avaient senti que sans partager la foi chrétienne, il avait une perception très profonde de ce que pouvait être la liberté dans le cloître, quand cette liberté est vraiment vécue authentiquement. Donc, elles lui ont demandé, leur Carmel étant encore en fonction, elles lui ont demandé s'y prêter merveilleusement. Il y a eu un lien d'amour entre ces femmes et cet artiste. Sont morts tous les deux. Enfin, elles sont mortes, et lui aussi. Et le Carmel a été fermé. Donc il s'agissait de savoir si on pouvait le transposer l'œuvre majeure qu'il avait faite, qui est soit un Y, soit une croix, soit en tout cas des fils de fer barbelé. Sur la toile, hein, c'est pas vraiment des fils de fer barbelé, mais c'est, vous verrez. Et est-ce que c'était possible, une transposition pareille, dans le musée dévolu au cœur du Christ? Je crois que ce fut possible, et je crois que c'est merveilleux. À côté de ça, vous avez un chef-d'œuvre, il y a beaucoup d'autres choses. Je prends des exemples très, apparemment très éloignés, et même en réalité très éloignés les uns des autres. Il y a un chef-d'œuvre. Alors un chef-d'œuvre au sens ancien du mot, un chef-d'œuvre fait par les frères Chaumet. Vous voyez ce que c'est les frères Chaumet, les grands joailliers, par amour de Dieu, du Christ. En 1903, ils y ont dépensé, ces deux frères, une bonne partie de leur fortune. C'est une œuvre où il y a, vous pourrez en voir des images là. La partie la plus haute à 3 mètres de haut. C'est fait d'argent doré, de bronze doré, d'albâtre, de rubis. C'est la montagne les vallées et les monts de Judée jusqu'au Golgotha et au-delà jusqu'à la gloire divine. Thomas Gleb et le frère Chaumet. Ça pourrait être un pastis insupportable. Et tout ça avec à l'origine un jésuite, le père Drevon. Ils sont morts, hein. Ainsi que lui, il est mort, ainsi que le baron de Sarachaga. L'orthodoxie catholique, je ne sais pas s'il était si sûr que ça, mais ça ne me regarde pas. À l'origine de ce musée, mort, l'offrant au cœur du Christ, et avec ce déploiement-là, tout autour, la jeune femme qui s'occupe de ce musée, qui a Dominique d'Indrel, qui est une merveille de l'humanité, je trouve, est d'origine d'Indrel, c'est un nom flamand, sûrement d'origine chrétienne. Elle a un respect de ces choses. On sait, voilà. Très, très grand, mais une ouverture non moins grande. Vous voyez, je m'égare sans doute, mais je ne vais pas continuer longtemps ce monologue, parce que il finirait par vous lasser, vous vous demanderiez où je vais en arriver. Comme je n'en sais rien moi-même, mieux vaut que je m'arrête assez vite. Mais sachez que ce qui se passe au musée de Paray-le-Monial aujourd'hui ressemble beaucoup aux efforts que l'on pratique en notre temps pour rendre possible la rencontre amicale, et si possible plus qu'amicale, quoique je ne vois rien qui soit au-dessus de l'amitié, d'ailleurs. Elle peut être de toutes sortes, bien des formes d'amitié. Mais on attend donc où on se préoccupe de tant de rencontres, et quelquefois au dépens de la clarté, en mélangeant tout. Là, il y a une véritable rencontre d'amitié entre des choses très différentes, mais qui ont en commun d'avoir réuni de grands artistes, parce qu'il y a de grands artistes d'aujourd'hui qui travaillent là, dans des expositions, très différents les uns des autres encore, mais unis par là, par la perception, la conviction qu'il donne un nom au Créateur ou qu'il ne lui donne pas de nom, à supposer qu'il croit en lui, ce qui, je pense, est le cas de beaucoup d'entre eux, mais pas forcément de tous. Eh bien, ils sont guidés par une... un sens de la justesse, un sens de la musique, de la musique de l'âme, très, très pure, très exigeant, qui rend leur rencontre authentique. On parle beaucoup de rencontres aujourd'hui, alors qu'on est tous séparés les uns des autres. Nous avons l'impression, quelquefois, que nous vivons dans une espèce de petite cabane de solitude, ce qui est vrai aussi. Mais il y a aussi de grands efforts pour se rencontrer, et ces efforts peuvent être sans parfois, des efforts un peu confus. Voilà un cas où je pense que la confusion est évitée. Au bénéfice de quoi? De la communion. Pardon d'avoir été beaucoup trop long. Je voudrais juste terminer revenant sur la poésie en vous rappelant que beaucoup de prisonniers pendant la Deuxième Guerre mondiale en particulier, mais pas seulement, il y en a d'autres depuis, qui vivent dans des conditions qui ne sont pas forcément moins effroyables, ont été sauvés, et le disent, et l'ont dit, par la poésie. Certains d'entre eux, ayant bonne mémoire et n'ayant même pas de livre, mais se rappelant ce qu'ils avaient respiré, les partageant avec les autres. Et cette poésie, qui pouvait être religieuse, mais qui pouvait aussi être tout simplement de la poésie, c'est toujours, la poésie nous mène toujours au-dessus de nous-mêmes. Ils ont vraiment Ils nous ont montré le chemin. Ils nous ont montré en tout cas un chemin. Je me permets de terminer peut-être, si vous voulez bien. D'ailleurs, quand on dit ça, et qu'on ne seul à avoir la parole momentanément, c'est se ficher du monde, sans le vouloir. Terminer par un poème, justement, de bien connu, très connu, de Baudelaire, qui s'appelle Baudelaire, c'est l'un des. C'est digne de Chardin, dans un tout autre genre. Ou de Mozart, dans un tout autre genre encore. Ça s'appelle Recueillement. Et c'est un poème triste, mais la poésie va avec la mélancolie. Elle va avec la joie. Mais quand la joie est extrêmement intense, elle rejoint la mélancolie. Nous sommes inachevés. Notre vie, nos vies, sont des chansons inachevées. Il ne faut pas s'en plaindre. Si l'achèvement a lieu, il aura lieu plus tard. Mais dès aujourd'hui, nous entendons peut-être certaines phrases musicales, certaines notes, certains tons qui apparenteraient la vie d'ici-bas à ce qu'on dit en italien « prova d'orchestre », répétition d'orchestre. Il me semble que notre vie est une répétition d'orchestre sur une partition dont j'espère bien que nous connaîtrons un jour pleinement la beauté infinie. Voici ce poème inachevé que vous connaissez. Sois sage, ô ma douleur, et tiens-toi plus tranquille. Tu réclamais le soir, il descend, le voici. Une atmosphère obscure enveloppe la ville, aux uns portant la paix, aux autres le souci. Pendant que des mortels, la multitude vile, sous le fouet du plaisir, ce bourreau sans merci, va quêter des remords à la fête servile, ma douleur, donne-moi la main, viens par ici, loin d'eux. Vois se pencher les défuntes années sur les balcons du ciel en robe surannée. Surgir du fond des eaux le regret souriant. Le soleil moribond s'endormir sous une arche. Et comme un long linceul traînant à l'Orient, entends, ma chère, entends la douce nuit qui marche. Merci à vous.
Merci de nous avoir.